Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. De nouveau ensemble pour la suite du roman de Jean Rouault, Les Champs d'honneur. Rémi fut le premier à s'inquiéter. Il guetta le curé Bidault à travers ses rideaux et le héla au moment où il entrait dans son église. L'abbé confirma n'avoir pas eu affaire à la petite tante de la matinée. Cet imbécile de Bidault, selon Rémi, ne trouvait rien d'anormal alors qu'elle était toujours fourrée dans ses jupes. Rémi était organiste titulaire et unique. Par son couplet anticlérical, il se dédommageait des services gratuits qu'il rendait à la paroisse. Un marathon hebdomadaire, 3 messes plus les vêpres, le dimanche, et chaque matin de la semaine l'office de 7 heures, à quoi s'ajoutaient les cérémonies des vivants et des morts. La marche nuptiale de sa composition était renommée, très demandée. Il se vexait un peu quand les jeunes mariés lui préféraient celle pompeuse, disait-il, de Mendelssohn. Lorsqu'on le sollicitait pour assurer la partie musicale d'un office auquel il n'était pas tenu par contrat, il suffisait de le supplier un peu, il n'arrivait jamais à refuser. Il s'en voulait. Il annonçait que la prochaine fois, Bidault et ses acolytes repasseraient la porte de son magasin, les 4 fers en l'air, mais la prochaine fois, chacun pouvait entendre « Merci, monsieur Rémy, on savait pouvoir compter sur vous. » Cette absence de la tante le tracassait. Il aurait aimé s'en ouvrir à maman, mais on ne savait plus comment aborder celle-ci. On lui parlait comme au sourd-muet, en s'adressant à la personne à côté. On nous demandait comment va ta maman, et maman se tenait à 2 mètres en exil, très loin. Elle mit des années à réintégrer le monde des vivants. Rémi se décida malgré tout avec le renfort de sa mère. Nous étions, selon notre habitude, dans la cuisine, la seule pièce véritablement chauffée en hiver. En plus d'y prendre nos repas, on y jouait, s'y chamaillait, y faisait nos devoirs, ou rien, le plus souvent. À nous voir tous les 4 repliés sur notre malheur tout neuf, la vieille Mathilde eut une telle expression de compassion que nous comprîmes que notre affaire était plus grave encore que nous ne l'imaginions. Rémi s'excusa de nous déranger, demanda rapidement de nos nouvelles, glissa sur la réponse et en vint à la raison de sa visite. Avait-on vu la tante ce matin ? Tiens, c'est vrai, elle n'était pas passée. Est-ce qu'on ne trouvait pas cette absence inquiétante ? Oui, sans doute. Mais l'inquiétude, on ne savait plus trop où la situer, et puis la tante, dans son perpétuel jeu de cache-cache, avait toujours mis beaucoup de coquetterie à réapparaître au moment même où l'on s'alarmait de sa disparition. Cependant, Rémi voulait en avoir le cœur net. Et comme nous ne réagissions pas, il proposa de pousser une reconnaissance jusqu'à la maisonnette, à moitié camouflée par le buis du jardin. L'expédition se mit en marche dans l'allée entre les massifs de rosiers, dont les branches mortes s'entrelaçaient sous la tonnelle. Rémi en tête, de son pas chaloupé, suivi de Mathilde et maman vêtues de noir, et bientôt rejoint par Pyrrhus, son épagneul fou, qui avait sauté la barrière, pourtant haute d'un bon mètre, entre les jardins. Rémy présumait sans doute qu'il pouvait y avoir du danger puisqu'il demanda aux enfants de rester en arrière. Arrivé devant la maisonnette, il tenta de jeter un œil par la fenêtre, mais les rideaux étaient tirés, d'où il déduisit que la petite tente était à l'intérieur. Du coup, il nous conseilla de retourner à la maison, puis, comme nous ne bougions pas, maman ne nous ayant rien dit, de demeurer à distance. La porte refusa de s'ouvrir. Il restait à briser une vitre à hauteur de la poignée de la crémone. Mathilde se penchait déjà, ramassait une pierre qu'elle tendait à son fils, mais Rémy, méticuleux à son habitude, en horloger adepte de la belle ouvrage, eut un mouvement de recul et l'envoya chercher un diamant dans le tiroir supérieur gauche de l'établi. Les corvées, c'était Mathilde. Rémy se débarrassa de la pierre en la lançant au loin. Pyrrhus, qui comprenait rarement ce qu'on attendait de lui, démarra ventre à terre et la ramena dans sa gueule. Ce ne devait pas être le moment de jouer, car il se prit une tape sur le museau. Quand Mathilde, 70 ans, revint essoufflée par la course, Rémy remarqua qu'il lui en avait fallu du temps, sur quoi elle objecta que le diamant n'était pas dans le tiroir supérieur gauche, sur quoi Rémy voulut savoir qui ne l'avait pas remis à sa place et chercha un coupable parmi les 3 suspects, sa mère, lui et son chien. De l'autre côté de la vitre, drap remonté sous le menton, la petite tante contemplait le ciel derrière ses paupières closes. « Voilà, je suis prête, Seigneur, quand vous voudrez, qu'une légion d'anges m'emporte vers vous très haut. Mais quand ange, sont-ce déjà vous envoyer ce crissement sur la vitre, suivi d'un cliquetis sec et cassant ? Depuis quand pénètrent-ils par effraction ces pilleurs d'âmes blasphémateurs ? Rémy, qui venait de se couper en passant la main pour tourner la poignée de l'acrémone, jura doucement. Quand il eut ouvert la fenêtre, ce qui nous remplit d'admiration, il s'assit sur le rebord, pivota sur son derrière, prit sa jambe malade à 2 mains, la bascula par-dessus le chambranle et de l'autre côté s'empêtra dans les rideaux. Tandis qu'il les écartait, que le jour profitait de l'ouverture pour se poser sur le lit, il eut comme une hallucination. Mathilde, l'oreille collée sur la poitrine miniature de la tante, scrutait à la mode indienne un dernier souffle de vie. « Par où es-tu passé ? Tais-toi ! » dit Mathilde. « Elle est morte ? » questionna Rémy. « Par la porte ! » répondit sa mère. Ce qui, cette réponse différée, impliquait que le cœur de la tante battait encore. Exposé plein ouest, le soleil couchant éclairait le maigre repas de la dîneuse solitaire. Son bois gonflé par les pluies de l'hiver, la porte avait juste eu besoin d'une bourrade pour s'ouvrir. Il fallait voir d'habitude comme la tante Marie s'y arc-boutait. On craignait d'entendre craquer ses os. Mais grâce à une longue pratique, elle dirigeait son effort au bon endroit et ne se montrait pas peu fière de son talent. D'ailleurs, elle ne fermait jamais sa porte, ou alors les nuits d'orage, quand le ciel éclate en morceaux au-dessus de l'Atlantique. Ni la prière, ni l'intercession auprès de la Vierge des Mères ne dissipaient dans ce cas sa frayeur. Elle donnait un tour de clé pour se rassurer. Les yeux clos, sans ses lunettes à monture de métal doré, ses cheveux blancs écrasés par un filet de nuit, elle paraissait ce jour-là une autre, presque étrangère, comme si, au cours des heures nocturnes, on avait procédé à une substitution. Notre petite tante qui ne pouvait mourir, comment l'aurait-elle pu, avec cet âge sans âge et si haute protection ? ayant été remplacé après sa dormition par une vulgaire mortelle aux traits voisins. Ce n'était pas celle que nous connaissions, la vive, la ferrée, aux yeux de malice et au verbe incontinent. Qu'avait-elle de commun, notre mari, avec ce monde immobile et silencieux, avec cette pâleur ivoirine, elle que sa vitesse de déplacement dans le vent d'ouest condamnait à un treillis de coupe rose sur ses joues fraîches. Pyrrhus, entré comme son maître par la fenêtre, sauta sur le lit. La petite tante rebondit sur les ressorts si bien qu'on crut un moment qu'elle se réveillait surprise par tout ce monde autour d'elle, mais elle retomba la tête en travers de l'oreiller. Le filet de nuit lui glissa sur les yeux que Mathilde réajusta avec beaucoup de délicatesse. « Veux-tu ?» hurla Rémi à voix basse. La main levée, le grand chien roux s'affala brutalement sur la descente de lit. Il ne comprenait toujours pas. Il voulait, comme à son habitude, gratifier l'attente d'une de ces manifestations exubérantes de tendresse qui la laissait stupéfaite et les lunettes de guingois. On emmena la vieille institutrice en urgence au centre hospitalier le plus proche. Rémi accusa le poêle à charbon. Il prétendait avoir senti une odeur bizarre en pénétrant dans la maisonnette. Mais de la façon dont cuisinait la tante, il y avait toujours en suspension des senteurs inédites et étranges. À peine arrivé, le docteur Maubriand fut invité lui aussi à renifler. Jamais auparavant on ne se serait permis de l'aiguiller sur une piste aussi prosaïque, mais après la mort de papa, la sûreté légendaire de son diagnostic en avait pris un coup. Cette assurance, cet air définitif, quand tombait son verdict, il faudrait que devant nous, il adoptât dorénavant un ton plus humble. Nous pouvions encore lire sur l'agenda paternelle, ses rendez-vous post-mortem pour des séances de massage que le docteur lui avait conseillées en remède à ses intolérables douleurs au dos. Il n'était plus question de s'en remettre aveuglément à son jugement. C'est pourquoi nous étions là tous les sept, le nez en l'air, à tenter de déceler une émanation funeste qui nous aurait donné un semblant d'étourdissement, à soulever à tour de rôle le couvercle du poêle pour un complément d'information, mais rien de bien probant. D'ailleurs, le gaz carbonique est inodore. Et une telle sortie à la Zola, un auteur à l'index, ne cadrait pas du tout avec notre petite tante. Quand elle rouvrit les yeux, l'hôpital conclut à sa guérison et nous la renvoya.
Voir le nombril de la femme d'un flic n'est certainement pas un spectacle qui, du point de vue de l'esthétique, puisse vous élever au pinacle. Il y eut pourtant dans le vieux Paris un honnête homme sans malice, brûlant de contempler le nombril de la femme d'un agent de police. Je me fais vieux, gémissait-il, et durant le cours de ma vie, j'ai vu bon nombre de nombrils de toutes les catégories. Nombril de femmes de croque-mort, nombril de femmes de bougnate, femmes de jocrisse. Mais je n'ai jamais vu celui de la femme d'un agent de police. Mon père a vu, comme je vous vois, des nombrils de femmes de gendarmes. Mon frère a goûté plus d'une fois ceux des femmes d'inspecteurs les charmes. Mon fils vit le nombril de la souris d'un ministre de la justice. Et moi, je n'ai même pas vu le nombril de la femme d'un agent de police. Ainsi gémissait en public cet honnête homme vénérable, quand la légitime d'un flic tendant son nombril secourable, lui dit: je m'en vais mettre fin à votre pénible supplice, vous faire voir le nombril enfin de la femme d'un agent de police. Alléluia, fit le bon vieux, de mes tourments voici la trêve. grâces soient rendues au bon Dieu, je vais réaliser mon rêve. Il s'engagea tout attendri sous les jupons de sa bienfaitrice. Braquer ses yeux sur le nombril de la femme d'un agent de police. Mais hélas, il était rompu par les effets de sa hantise. Et comme il atteignait le but de 50 ans de convoitise, la mort, la mort, la mort le prit sur l'abdomen de sa complice. Il n'a jamais vu le nombril de la femme d'un agent de police.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Jean Rouault, Les Champs d'honneur. Lorsque nous aurons ressuscité d'entre les morts, nous serons avec nos corps tout neufs, comme des collégiens empruntés. Nous le tenons de l'attente de cette pause inhabituelle, alors qu'elle nous attendait dans la chambre du premier donnant sur la rue, où maman l'avait installée à son retour d'hôpital, une main en appui sur le bois de lit, comme un Talleyrand revenu de tout, semblant moins se cramponner que chercher une attitude, une nouvelle courbe dans l'espace où inscrire son dos voûté, ses membres grêles, son port de tête, comme gêné de nous jouer ce mauvais tour, s'excusant presque de cette fausse sortie, nous dévisageant avec l'effarante distance de ceux qui ont dépassé les bornes de ce monde sensible. L'impression ressentie à sa découverte inanimée se confirme. Ce n'est pas notre tante. Comme si une part d'elle, cette part qui l'identifiait à nos yeux, s'était estompée, gommée dans son passage à la frange des ténèbres. Et nous, devant cette tante approximative, devant cette silhouette débarrassée de ses marques, comme, oui, sans connaissance. Que dit Jean sur la réapparition de Jésus ce matin halluciné où achoppe le salut de la multitude ? Que Marie-Madeleine, le jour à peine levé, accourt au tombeau et le trouve vide. Marie-Madeleine, l'amoureuse effrénée qui couvrait d'un coûteux parfum de Galilée les pieds du marcheur sublime en les oignant de ses cheveux. Elle demande à celui qu'elle prend pour le gardien du jardin où l'on a déposé le corps du supplicié car elle désire l'emporter, l'assurer par-delà la mort de la pérennité de son amour. Marie-Madeleine ne se lamente pas qu'on l'ait trompée au sujet de la résurrection. Elle ne joue pas l'offensée, ne se calfeutre pas dans l'espérance d'une amnistie honteuse qu'on ait ainsi abusé de sa crédulité. Elle se moque du « qu'en dira-t-on » qui paralyse les apôtres. Cette révélation de l'amour lui suffit, l'occupera jusqu'à la fin de ses jours. Et lui, qui comprend, usant pour la première fois sans doute d'un tendre diminutif, « Mariam », dit-il simplement. Et elle, se retournant, « Mon rabbi », ce qui en hébreu signifie « mon maître », ce qui pourrait signifier « mon homme », « mon tout », « ma sollicitude », car il est le seul à la mesure de ce flux d'amour, le seul à l'étancher, quand avant lui, tous les hommes entassés dans son lit n'y suffisaient pas. Et maintenant, confiez ce scénario à un metteur en scène et voyez ce qu'il en ferait. Mon Dieu, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils les précipiteraient ahuris l'un vers l'autre, leur demanderaient de s'étreindre fougueusement dans la joie des retrouvailles, et ni Jésus, ni Marie-Madeleine, ni le metteur en scène n'auraient compris le fin mot de la résurrection. « Ne me touche pas, » dit le maître. « Embrassez votre tante, » nous disait maman. On n'osait pas. Pas envie de mettre les doigts dans ses bronches blessées par la fumée du poêle. Pas envie de croire à cette revenante. Et puis la tante n'avait jamais su embrasser. Elle collait sa joue sèche contre la joue qu'on lui tendait, un contrat rapide comme un effleurement électrostatique. Faisait claquer ses lèvres dans le vide et cela valait pour une démonstration de tendresse. Jamais elle ne vous prenait dans ses bras, ni ne câlinait. Jamais elle ne vous serrait contre elle. et pas même son Jésus qu'elle enlaçait bras écartés, pas même les bébés qu'elle tenait en suspension comme une bûche sur des chenets. Il existe d'elle une photo prise dans la cour où elle hisse Nine de moi à bout de bras, à hauteur de son visage, comme un vainqueur de championnat son trophée. Nine tournée vers le photographe, papa sans doute, et elle se dissimulant derrière l'enfant avec une pudeur toute biblique. Cette pauvre sensualité ne favorisait pas les transports. À tour de rôle, nous nous sommes avancés vers elle. Elle a lâché le bois de lit pour poser ses deux mains sur nos épaules. Cette manière d'étreinte, elle ne pouvait pas faire mieux. C'était de l'inédit pour elle. On sentait qu'elle tenait à marquer l'événement, ce retour improbable d'un geste redondant. De tout temps minuscule, son séjour à l'hôpital l'avait rétréci encore, comme si elle avait déjà amorcé son retrait intérieur. De telles embrassades posent un problème aux porteurs de lunettes. Il faut qu'ils veillent à bien contourner le visage, à passer suffisamment au large pour ne pas accrocher les montures. Son souci d'éviter l'incident et ses commentaires habituels, son faible goût pour le contact de la chair incitait chaque fois notre tante à entreprendre une manœuvre de débordement plus ample que nécessaire, qui nous amenait à embrasser le bouton fiché dans son oreille. Cette parure n'était pas de sa part une coquetterie. Il était à cette époque d'usage de percer les oreilles des petites filles auxquelles, pas plus qu'aux excisées, on ne demandait leur avis. Ces pointes d'or, implantées quelques semaines après la naissance, au prix parfois de saignements intensifs, étaient emportées dans la tombe, une sorte de rituel tribal qui apparentait notre tante bonne chrétienne aux princesses barbares. Cette sensation froide du métal sur les lèvres. « Seigneur, dit Thomas, ils ont oublié un clou dans votre plaie. » C'est ainsi que nous prîmes congé d'elle. Ensuite, elle a perdu la tête. Au début, on ne s'est pas inquiété. Quand elle demandait où était Joseph, on admettait, tenant compte de l'âge et du séisme qui nous avait surpris à l'épicentre, que ce type d'oubli était bien légitime. Même avec un cadavre sous le nez, la mort n'arrive pas à rentrer. Je me souviens, alors que je regardais la télévision un dimanche soir chez Rémi, de m'être levé précipitamment pour prévenir papa d'un résultat de match qui l'aurait intéressé. J'avais déjà la main sur la poignée de la porte quand tout m'est revenu. On expliquait donc à la petite tante que papa était en tournée, que ses affaires l'emmenaient de plus en plus loin maintenant, mais qu'il serait bientôt de retour. Elle faisait semblant de se ranger à nos arguments, puis, après un temps de macération, revenait à la charge. Elle voyait bien que quelque chose ne collait pas. Il avait été convenu qu'elle s'installerait chez Rémi sitôt qu'il aurait achevé l'aménagement d'une chambre. Pas question qu'elle regagne sa petite maison et son poêle damné, et maman n'avait pas la force de la garder. On avait été chercher chez elle des objets familiers pour qu'elle se sente moins dépaysée, son crucifix, les cadres de Lourdes et de Lisieux, le fichier qu'elle achevait de remettre à jour, plus quelques bibelots et une collection de médailles pieuses à glisser dans les armoires et sous son oreiller. Elle a d'abord soutenu que le crucifix n'était pas le sien, que le sien on l'avait volé et qu'elle s'en plaindrait à Joseph dès son retour. Rémi essayait de lui démontrer le contraire, mais devant la raison butée de l'apostate, levait les bras et, découragé, annonçait qu'il démissionnait. Mathilde le renvoyait à son établi et prenait calmement le relais. Le crucifix avait été volé en effet, mais gare au coupable, car Joseph, à son retour, saurait mettre la main dessus. La petite tante disait qu'elle l'avait bien dit, qu'elle n'était pas folle. En attendant, elle ne voulait pas de celui-là, et Mathilde, qui affectait de comprendre que sa belle-sœur ne put dormir en compagnie d'un étranger à demi dévêtu, glissait la croix dans le tiroir de la commode. Pyrrhus était heureux d'avoir retrouvé sa vieille compagne. Il passait ses journées dans la chambre, allongé sur le lit. De temps à autre, il descendait rendre une petite visite à Rémy au magasin, recevait une caresse amicale sur le crâne, une autre plus aléatoire de Mathilde, et tout étant bien en ordre, remontait à l'étage, rejoindre son poste. Il se montrait si imprégné de son rôle, si évidemment responsable, qu'il suffisait de dire « Pyrrhus est avec elle » pour qu'on cesse de se tourmenter. Elle demandait toujours après Joseph. On répondait la même chose. En tournée, un contretemps, ne va pas tarder. Par lassitude, on aurait presque lâché le morceau. C'est peu à peu qu'on s'est aperçu de l'ampleur du malentendu. À des glissements dans ses propos, des dérapages hors du domaine d'absurde qu'on lui concédait. Joseph blessé, par exemple. Il avait besoin de son aide, elle désirait le rejoindre, exigeait qu'on la conduise à Tours. Et puis cette histoire de Belgique aussi. Tours, on voulait bien. La Loire, malgré tout, Orléans, Beaugency, comme une longue traîne au pays de l'estuaire. Mais que venait faire ici la Belgique ? De fait, papa avait tenté une incursion du côté de Bruxelles à l'époque où il proposait ses tableaux à caractère pédagogique dans les écoles libres. Avec si peu de succès qu'on dispose encore d'un stock énorme dans l'entrepôt du jardin, tout l'Ancien Testament en 30 planches couleur. Mais il y avait des années qu'il se consacrait exclusivement à la vaisselle et à la Bretagne. On reconnaissait cette manie de l'attente d'inscrire ses récits dans de vastes rétrospectives, comme si, pour elle, le plus sûr moyen de retrouver papa vivant était de repartir en arrière, d'inverser de ce point zéro le cours de sa vie, de remonter le temps comme on remonte ce qui était démonté. On admettait qu'elle mêlait tout maintenant, avec art si l'on veut, mais que son esprit campait dans une quatrième dimension de l'espace-temps où il n'était pas question de la suivre. Elle insistait pourtant, Joseph blessé. Elle semblait habitée de visions, recevoir par canal médiumnique un appel de papa accidenté, peut-être abandonné sans secours sur le bord de la route, agonisant dans la carcasse broyée de sa voiture. On se rassurait à l'idée que là où il était, il ne pouvait plus rien lui arriver. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Jean Rouault, Les Champs d'honneur, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.